Vous écoutez On lit pour vous.
Repenser la liberté, un dossier de Chantal Guy, paru le 2 mars 2024 dans la presse. Depuis une dizaine d'années, les populistes de droite brandissent avec succès une conception absolutiste de la liberté. Mais qui est plus libre depuis l'élection de Donald Trump? Les gens ordinaires ou les milliardaires? Portée par des lectures récentes, notre chroniqueuse Chantal Guy nous invite à réfléchir à la notion de liberté. La chute de l'homme progressiste. Alors que Justin Trudeau tire sa révérence dans le bordel trumpien, je me souviens de son arrivée au pouvoir en 2015. J'étais correspondante à Paris. Les journaux et magazines français s'emballaient pour le nouveau premier ministre du Canada, qu'on appelait parfois « Justin » à la télé. Jeune, objectivement beau et progressiste, Justin Trudeau marchait dans les traces médiatiques de Barack Obama, qui était toujours en poste, et c'est à se demander si cela n'a pas inspiré les Français à élire en 2017 Emmanuel Macron, qui, à 39 ans, est devenu le plus jeune président de l'histoire de la République. J'avais quand même le fou rire devant cette nouvelle Trudeau-manie, parce que j'ai grandi dans une famille souverainiste où on détestait son père, Pierre Elliott Trudeau. En même temps, on sortait du règne conservateur de près de 10 ans de Stephen Harper et on sentait un soulagement au flanc gauche. En tout cas, si je n'étais pas rassurée pour la défense de la langue française, ce n'était pas avec Justin Trudeau que j'allais m'inquiéter pour le droit à l'avortement. De fait, on l'a beaucoup vu s'afficher dans des événements progressistes, comme les marches de la fierté LGBTQ+, en plus de promouvoir la réconciliation avec les Premières Nations et même de légaliser le cannabis. Il a parfois poussé le bouchon jusqu'à l'absurde, comme lorsqu'il s'est déguisé lors d'un voyage en Inde, et ça lui a coûté cher sur le plan de l'image. En 2025, nous sommes dans un autre monde où des populistes avec des coupes de cheveux bizarres comme Trump ou Milley sont plus en vogue que le belâtre progressiste qui se fait casser sa jolie gueule sur les réseaux sociaux. En fait, le canari était dans la mine en 2016, lors de la première élection de Donald Trump. Derrière un progressisme de façade, très instagrammable de la part des politiciens ou des entreprises, la colère gonflait. Un peu partout sur la planète, on a vu une montée de la droite dure, voire de l'extrême droite, tandis que les mouvements masculinistes ont progressé au point de créer, jusque dans la jeunesse, un fossé politique entre filles et garçons. Andrew Tate et son frère, qui font l'objet d'une enquête en Roumanie où ils sont soupçonnés dans des histoires de viol et de traite d'êtres humains, ont pu rentrer aux États-Unis à la demande du nouveau gouvernement. Dernièrement, Justin Trudeau s'est fait traiter de gouverneur d'un potentiel 51e État par Trump et de fille par Elon Musk. Et tout ça au nom de la liberté d'expression qu'il faut sauver, dit-on. Mais à voir les premières semaines de la deuxième présidence de Donald Trump, on se rend compte qu'il s'agit surtout de la liberté des plus forts sur ceux qu'il considère comme des faibles. Donner la liberté aux loups, c'est souvent vouer les agneaux à la mort, répète l'économiste américain et prix Nobel Joseph Stiglitz dans son plus récent livre qui vient de paraître en français, « Les routes de la liberté », où il explique ce qui fait une démocratie saine et plus juste. Et ce n'est certainement pas celle que nous voyons en ce moment aux États-Unis. On ne pouvait avoir meilleure image de cette prédation qu'avec la rencontre de Volodymyr Zelensky et Donald Trump, qui a choqué la planète. Joseph Stiglitz souligne qu'aux États-Unis, la droite s'est emparée depuis plusieurs décennies de la rhétorique de la liberté, tout comme elle s'est arrogée le patriotisme et le drapeau national. Or, il s'agit d'une valeur beaucoup plus complexe et nuancée que ne le prétendent les conservateurs, ajoute-t-il, en faisant la démonstration sur près de 400 pages dans « Les routes de la liberté ». Et quand il parle de la droite, il ne parle pas de la droite traditionnelle, mais de celle qui a versé dans la mouvance MAGA très libertarienne. De toute évidence, ils ont gagné la guerre culturelle contre les woke et, selon leur vision absolutiste de la liberté d'expression, nous devrions en principe être libérés de toute censure maintenant que Trump est élu. Or, c'est tout le contraire qui arrive. Par exemple, dans des centaines de bibliothèques aux États-Unis, on retire les livres qui parlent de l'esclavage, du féminisme ou des personnes trans. Dans les États les plus rouges, comme en Floride, on veut interdire l'enseignement des théories du genre, de la race et celle de l'évolution aussi, au nom de Dieu. Comme s'il fallait éliminer le mot qui commence par « T » pour enfin pouvoir dire le mot qui commence par « N » et être libre de faire des saluts nazis, pardon, des saluts romains, sans que les bien-pensants puissent faire quoi que ce soit. Marc Fortier, éditeur chez Lux, n'est pas étonné par ce qui se passe. Il va publier le 19 mars le fascinant essai « Devenir fasciste, ma thérapie de conversion » dans lequel il explique avec humour comment il compte suivre l'air du temps pour éviter d'être éliminé comme intellectuel de gauche. Nous faisions une entrevue qui sera publiée pour la sortie de ce livre qui va faire jaser. Selon M. Fortier, c'est sûr que les conservateurs allaient gagner la guerre culturelle. Ça fait 15 ans que je dis à mes amis engagés qu'ils allaient la perdre. Ce n'est pas que leurs causes sont mauvaises. C'est que, d'abord, une guerre, c'est un rapport de force. Et tu rentres dans un jeu où les brutes ont tout de suite un avantage. Ce qu'il appelle la différence entre les amateurs et les professionnels. Il y a une différence très importante entre la façon dont les réactionnaires détruisent les livres et la façon dont les progressistes font de la censure. Les progressistes, dans le fond, travaillent sur la question des mœurs. Ils vont changer des mots, le titre d'un livre d'Agatha Christie. Au pire, ce sont des lignes de tempérance postmoderne. Tandis que les réactionnaires, quand ils prennent le pouvoir, ils se servent de la loi. Et ce n'est vraiment pas la même action. La preuve, les décrets signés à la chaîne par Trump, qui a réglé d'un coup de crayon les programmes de diversité ou les femmes trans dans les sports féminins. Les woke, il les a rendus illégaux en 15 minutes. On peut passer à un autre appel, note Marc Fortier. Mais il a trouvé ça inspirant comme méthode éventuelle pour contrer les oligarques. Car si les personnes trans représentent moins de 1% de la population, les multimilliardaires sont encore moins nombreux après tout. Si on peut éliminer comme ça une minorité en un décret, quelques entreprises et quelques centaines de milliardaires, ce n'est rien. Les communistes staliniens vraiment brutaux, et je ne suis pas de leur côté, c'est ce qu'ils disaient dans les années 1910. Les riches créent des monopoles et à la fin, ça simplifie notre travail parce qu'ils sont 12 et qu'il y a 5 entreprises. On prend le pouvoir, on les tue et c'est fini. Ils ont fait le communisme pour nous, ajoute-t-il, pince sans rire. Vous écoutez « Repenser la liberté », un dossier de Chantal Guy, paru le 2 mars 2024 dans la presse. La bataille perdue du web. Maintenant, la viralité est autant, sinon plus, du côté de la droite. Une photo d'une femme en burkini dans une piscine publique vous attire les commentaires des islamophobes comme l'outrage des antiracistes. Et c'est ça que les plateformes encouragent, la viralité. C'est très bien expliqué dans l'instructive série balado française « Le code a changé » de France Inter, qui se penche en 3 épisodes sur la question suivante « Comment la gauche a perdu l'Internet ?» Dans le premier épisode « Pourquoi Internet favorise la droite ?», l'animateur Xavier Delaporte interroge la chercheuse américaine Jen Schrady, auteur de « The Revolution That Wasn't »,« How Digital Activism Favors Conservatism » en 2019, qui a suivi pendant des années des groupes politiques de tous les horizons dans leurs activités en ligne. Elle en est arrivée à la conclusion que les classes sociales se perpétuent sur les réseaux sociaux où les contenus sont faits par moins de 10 % des utilisateurs. L'émission résume sa thèse ainsi : l'Internet perpétue les dominations sociales, favorise les organisations structurées qui ont de l'argent, ainsi que les contenus simples, polémiques et répétitifs. Or, la gauche est réfractaire à la hiérarchie. C'est ce qui fait sa force au début, mais sa faiblesse à long terme dans cet environnement. C'est la force de la pensée conservatrice que d'être focalisée sur quelques sujets, de les labourer sans cesse, en accumulant les arguments, les déclarations et les affirmations idéologiques, dit Jen Schrady. À gauche, au lieu de se concentrer sur un sujet comme la liberté, on se préoccupe de justice et on décline ce thème dans nombre de contenus qui abordent plein de sujets différents. Or, toutes ces idées différentes ne tiennent pas ensemble en un tweet. Ce n'est pas avec les oligarques de la technologie qui se rangent du côté de Trump que ça va s'améliorer, on s'en doute. Le code a changé. L'émission balado de France Inter, spécialisée sur la vie numérique, Le code a changé, animée par Xavier Delaporte, a consacré une série à ce thème. Comment la gauche a perdu l'Internet en 3 étapes. Les 3 épisodes, Pourquoi Internet favorise la droite, Le capitalisme est mort, Vive le techno-féodalisme et L'histoire de Naomi Klein et son double maléfique sont offerts sur le site de Radio France. Massacre à la tronçonneuse de l'État. Ce qui nous amène à Elon Musk, en train de démanteler l'État américain avec autant de subtilité qu'il a brandi une tronçonneuse, cadeau de Javier Milei, lors d'un rassemblement conservateur. Tout ça pour prétendument libérer le peuple de la bureaucratie. Et beaucoup applaudissent, car qui aime la bureaucratie? C'est aussi au nom des libertés individuelles et du libre marché que Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post, vient d'imposer à ce journal que les textes d'opinion contraires à sa vision libertarienne ne soient plus publiés. Selon Joseph Stiglitz, la vision actuelle des conservateurs de la liberté est superficielle, erronée et idéologique, écrit-il en affirmant que leur définition pousse au contraire à limiter considérablement les libertés de la plupart des citoyens. Le libéralisme économique exacerbé, tant sous les gouvernements démocrates que républicains, selon cette fausse idée que le libre marché apportait une plus grande liberté pour tous, a mené à la terrible crise financière de 2008, où l'État a choisi de sauver les banques plutôt que de réformer ses pratiques. Les inégalités se sont aggravées et la confiance envers les institutions a été en chute libre. Stiglitz rappelle ceci de la crise économique de 1929. C'est grâce aux revendications démocratiques que les gouvernements démocratiques, comme les États-Unis, ont réagi à la Grande Dépression par l'action collective. En Allemagne, l'incapacité du gouvernement à réagir adéquatement à la hausse du chômage a conduit à l'ascension d'Hitler. Aujourd'hui, c'est le néolibéralisme, la croyance en des marchés sans entrave, sans réglementation, qui entraînent des inégalités colossales qui ouvrent la voie au populisme. Contrairement à ce que Friedman suggérait dans son livre « Capitalisme et liberté », publié pour la première fois en 1962, cette forme de capitalisme ne favorise pas la liberté dans notre société. Elle a en fait offert la liberté à quelques-uns, pour en priver la majorité. La liberté pour les loups, la mort pour les agneaux. Et si les Elon Musk de ce monde détruisent l'État, croit Marc Fortier, c'est qu'ils savent que c'est la seule puissance qui peut s'opposer à la leur. L'État, dit-il, c'est la corporation du peuple. C'est sûr qu'après, il ne reste plus rien. Après, il ne reste que le gouvernement d'Apple, de X, des algorithmes, de toutes les puissances du capital. La première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a plus de conservateurs dans notre société, poursuit-il. Ce sont des pseudo-conservateurs, des libertariens révolutionnaires. Ce n'est pas juste la gauche qu'il faut réinventer. C'est la droite aussi. Il déplore que la social-démocratie ait été réduite seulement à l'idée de la redistribution des richesses, alors que c'est un système de redistribution des pouvoirs, rappelle-t-il. Il y avait une volonté, après la Seconde Guerre mondiale, d'enraciner socialement la démocratie. Aujourd'hui, c'est réduit au vote. Mais ce n'est pas le plus important. Pour Marc Fortier, les réponses ne servent à rien à ceux qui ont oublié quelles sont les questions. Et ces questions sont : c'est quoi l'école ? C'est quoi la justice ? C'est quoi la démocratie ? C'est quoi la liberté ? Tout ce que Trump est en train de détruire, ça représente quoi pour nous ? En cela, il rejoint Joseph Stiglitz, qui écrit : nous ne pourrons pas gagner le combat existentiel pour la liberté et la démocratie tant que nous n'aurons pas une idée plus claire de ce que nous voulons. Pourquoi nous battons-nous? Comment se fait-il que la droite brouille depuis longtemps notre réflexion sur ces concepts? Cette confusion sert ses objectifs alors qu'elle se lance dans une série de batailles politiques qui pourraient, si elle les remporte, menée à l'antithèse d'une liberté significative. C'était « Repenser la liberté », un dossier de Chantal Guy, paru le 2 mars 2024 dans la presse.
Ariane Picard, « Dur labeur ». Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 9 décembre 2024 dans les libraires. Olive ne va pas bien. Désabusée de son travail de consultante en génie informatique, elle trouve de moins en moins de sens à ce qu'elle fait et se demande si elle va finir par bien aller un jour, Chris. Mais rien ne s'arrange. Un coup de fil à sa cousine Chanel, sa beste, quand il s'agit de s'éloigner des sentiers battus, et hop, les voilà dans le pick-up en route vers les grands espaces jusqu'au BC où Olive espère remettre ses idées à l'endroit et renouer avec son essence. Premier livre d'Ariane Picard, Bébé sucré invite à repenser les rôles qu'on se donne parfois à son insu et à s'interroger sur la vraie nature du mot « réussite ». Parfois si éloigné de celui du bonheur. L'autrice Ariane Picard a grandi dans une famille pas nécessairement très aisée, mais riche en culture. Notamment inspirée par les femmes du clan, la fillette fait semblant d'écrire alors qu'elle n'a pas même encore appris à le faire. Son penchant pour les lettres ne se démentira vraiment jamais. Bien qu'elle suive une formation en droit et endosse la profession d'avocate. Amour des mots et histoire en tête, ce qui n'est pas sans lien avec le plaisir de la plaidoirie, elle se lève tous les matins avec l'aube pour écrire et part ensuite faire sa journée de litige. Contrairement à sa job officielle, elle tient à ce que l'aboutissement de son roman se fasse avec la plus grande latitude possible. Composé de divers fragments, le récit prend forme ainsi, en constellations éclatées, avant d'être mis en un ordre cohérent et envoyé à différentes maisons d'édition. Quand son manuscrit est retenu, elle décide de quitter son emploi, devient serveuse et consacre le reste de son temps au peaufinage de son œuvre. Le droit, elle y reviendra peut-être. Pour l'instant, elle est pigiste dans le domaine des communications, ce qui lui permet d'accorder un rythme plus soutenu à ses résolutions littéraires. « C'est ma priorité », n'hésite pas à affirmer la jeune femme. Une existence en crise. Olive, le personnage créé par Ariane Picard, aimerait bien aussi se sentir à sa place dans une carrière, mais elle est plutôt engoncée dans les doutes, aux prises avec un tenace sentiment de décalage. J'ai voulu en faire une héroïne tragique, un exemple de gens qui sont pris au piège dans un système qui oblige au volume, à la production, explique l'autrice. Beaucoup se sentent constamment à l'encontre de leurs valeurs quand ils sont sur le marché du travail. Certains réussissent à trouver des concessions qui ont du sens et justifient leur engagement, tandis que d'autres n'y parviennent pas, épuisés d'attenter continuellement à leur intégrité. Je trouve ça dommage que des personnes relèguent leur épanouissement à leur vie privée, de poursuivre l'écrivaine. Bosser en attendant le prochain congé ou les deux semaines de vacances, ce n'est pas la première fois qu'on aura entendu ça. Si dans notre société, le travail reste en grande partie ce qui nous définit, il est digne d'intérêt de nous en préoccuper, d'autant plus qu'il prend plusieurs heures de notre vie. Pour justement ne pas avoir l'impression qu'on nous la vole. Olive ira voir ailleurs si elle y est ou si une version améliorée d'elle-même se terre quelque part, dans les confins des terres canadiennes très humides, à Prince Rupert, ville portuaire située près de l'Alaska. En chemin, elle fera la connaissance de Mary, femme d'un certain âge au charme indéniable, habitée par une bohème décomplexée. Une nuit, après un souper collectif festif, attablé dans la véranda avec l'ordinateur ouvert, celle-ci lui fait découvrir Seeking Arrangement, un site de rencontre particulier où des hommes sont à l'affût de compagnies féminines, sans pour autant être forcément à la recherche d'une relation sérieuse ou sexuelle. Souvent établie sur des bases tacites, l'entente se fait en échange d'argent, impliquant diverses exigences, souper au restaurant, envoi de photos, participation à une partie de pêche, etc. Et si c'était une façon comme une autre de subvenir à ses besoins en fournissant un minimum d'efforts, tout en conservant une amplitude intéressante dans la sphère de l'espace-temps? Mais si Mary semble dégagée émotivement et mentalement, la conscience et la pudeur d'Olive sont davantage ébranlées. Un besoin constant de validation l'empêchait de s'adonner avec désinvolture à cette activité. Un boulot intrusif, aliénant et difficile pour l'estime car son corps et sa personnalité devenaient des outils sans cesse perfectibles, à mouler, à modeler, à lisser, indésirables en eux-mêmes. Pouvait-on vraiment parler de liberté dans un tel contexte? Mais un travail bien sous tout rapport n'apparaissait pas non plus concevable puisque le sentiment de devoir jouer un rôle n'était pas rare même à travers une occupation dite respectable. En parallèle, elle poursuit sa quête et croit avoir déniché son royaume au sein d'une œuvre de bienfaisance s'employant à récupérer les restes alimentaires et à distribuer des rouleaux aux fruits aux personnes moins à l'aise financièrement. Mais bientôt, elle réalisera que Jim et Eric, à l'origine de l'initiative, ne sont pas si propres qu'ils en ont l'air. Mais qui l'est, finalement? S'armer de courage. Continuellement désillusionné, Olive n'est plus certaine qu'il soit possible, dans notre monde frénétique d'aujourd'hui, souvent mené par l'obligation de livrer une performance, d'exercer un métier sans y perdre la foi. S'ensuit une critique en règle du monde du travail qu'elle et son collègue Yanis, redoutable pince sans rire, s'affairent à polir de jour en jour. Citation. « Comment le monde du travail? C'est un cirque! » Soit tu fais du cash et t'es insatisfait moralement, soit tu fais pas de cash et t'es satisfait moralement. Fin de citation. On entend de plus en plus la notion de travail alimentaire. Ne s'identifiant pas à ce qu'on fait, refusant l'étiquette qui nous enferme dans une fonction qui ne nous ressemble pas. Une des opportunités d'emploi dans laquelle Olive a le moins vendu son âme, c'est quand elle était « sugar baby ». Parce qu'elle se dissociait complètement en offrant son corps, relève Ariane Picard. Ce qui n'est pas non plus sans conséquence. Dans l'univers actuel, quand on a des valeurs environnementalistes ou des principes éthiques, c'est difficile d'agir en cohérence avec nos convictions. Quand elle reprend espoir et veut croire en la sincérité de quelqu'un ou d'un projet, Olive est souvent rattrapée par le revers de la médaille. Afin de conserver sa confiance et de ne pas sombrer dans le cynisme, elle devra tracer sa ligne et respecter ses limites. Comme la plupart d'entre nous, elle est pétrie de contradictions et essaie de se dépêtrer avec son sentiment d'insuffisance et ses manques. Sans même nous en rendre compte, nous nous retrouvons parfois dans une position qui peut aller jusqu'à l'encontre de nos fondements et nous réussissons à nous convaincre que c'est très bien ainsi. Notre pensée est malléable et arrive à nous faire prendre des détours très surprenants. On dit souvent que notre façon de voir les choses compte pour beaucoup dans notre degré de bonheur ressenti, mais en même temps, il est si compliqué de préserver un jugement critique sur ce qui nous arrive. Le roman « Bébé sucré » évoque de façon très pertinente ces enjeux, remettant au premier plan la nécessité de ne pas consentir à sa propre perte. C'était Ariane Picard, « Dur labeur », un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 9 décembre 2024 dans Les Libraires.